Avant de répondre à cette question, je voudrais résumer justement cette affaire, expliquer peut-être que tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé le 9 janvier 2013, résumer un peu ce qui s'est passé. Ce jour-là, donc Sakine Jansouz, qui était la cofondatrice du PKK avec Abdullah Öcalan et ses autres amis en 1978, était de passage à Paris, parce que cela faisait des années maintenant qu'elle militait en Europe, justement pour l'émancipation des femmes kurdes, pour la reconnaissance de la question kurde et la libération de son peuple. Elle luttait et militait pour la paix au Kurdistan, pour la démocratie dans toutes les parties du Kurdistan. Donc c'était une légende vivante, même quand elle vivait, tout le monde parlait d'elle comme si c'était une légende. Elle était déjà connue et dans le cœur et dans l'âme de tout le peuple kurde qui avait entendu son nom. Elle n'était pas seulement connue par les peuples kurdes qui vivaient en Turquie, mais aussi en Iran, en Irak, en Syrie, parce que tout le monde avait entendu parler d'elle. En tant que Sara, son nom de code, c'était Sara. Tout le monde avait déjà entendu parler d'elle. C'était devenu un symbole, alors qu'elle vivait encore. Alors ce jour du 9 janvier 2013, elle était avec Hüdan Doğan, que tout le monde connaissait comme Rojbin, et Rojbin qui était connu de beaucoup d'acteurs politiques en France et au niveau européen aussi, était une jeune femme remarquable, qui avait sacrifié sa vie, hein, qui s'était engagée très jeune dans les mouvements politiques kurdes, à ses 18 ans, qui voulait devenir actrice justement, elle aussi, et tisseuse d'une paix pour le peuple kurde, d'une paix durable pour le peuple kurde. Elle, parce qu'elle s'exprimait très très bien en français, était la représentatrice justement, la porte-parole des Kurdes dans beaucoup d'instances politiques européennes, au Conseil de l'Europe, au Parlement européen. Elle connaissait notamment le président de la République d'aujourd'hui, François Hollande, qui l'a reconnu après les faits, le 9 janvier 2013. Elle faisait tout à cœur et à âme pour que la question kurde soit résolue. C'était ma meilleure amie aussi, j'étais très proche. Je la connaissais depuis que j'avais 18 ans, elle en avait 17 ans. Et Leïla, celle qui a été avec elle, la troisième en fait, c'était une jeune fille de 24 ans. Elle était originaire de Diyarbakir, la capitale du Kurdistan. Elle était en Europe depuis seulement 9 ans. Et en fait, au fond de son cœur, elle n'avait pas quitté le Kurdistan, elle n'avait jamais quitté Diyarbakir. Parce que déjà, elle s'était toujours dans sa tête, elle disait toujours je vais retourner là-bas, je vais vivre là-bas. Elle était très dynamique et elle était membre justement de la jeunesse kurde en Europe. Et elle essayait justement de parler avec tous les jeunes, de leur dire qu'il était très important d'être lié à ses terres, d'être lié à sa culture, d'être lié à sa langue et surtout de reconnaître que les femmes, d'être femme était très important dans la société kurde. Donc en même temps, elle avait une double responsabilité. Elle était femme et elle était membre d'un mouvement de la jeunesse qui était très dynamique en Europe. Pour nous, ce 9 janvier 2013, c'était une souffrance de la société kurde, pas seulement des personnes. C'était un choc pour toute la société. Parce que ce jour-là, ils ont voulu tuer tous les Kurdes. Pas seulement 3 femmes, mais tous les Kurdes. Ce jour-là, ils ont voulu tuer le mouvement de libération du Kurdistan, ils ont voulu tuer l'espoir de paix du peuple kurde, et ils ont voulu tuer la ligne de libération du mouvement des femmes kurdes, la ligne politique de libération du mouvement des femmes kurdes. Donc Sakine, Rojbin et Leïla n'ont pas été choisies par hasard, parce que à chacune, elles avaient une certaine responsabilité justement. Sakine Jansouz représentait en elle-même le mouvement. Fidan était le pont du mouvement entre la scène européenne, la scène internationale. Elle était la voix du peuple kurde. Et Leïla était l'avenir de la jeunesse kurde et du peuple kurde. C'était 3 générations différentes qui ont été visées ce jour-là. Aujourd'hui, après 2 ans d'enquête, plus de 2 ans et demi d'enquête, vous savez qu'un certain présumé meurtrier a été incarcéré 1 semaine après les assassinats. Cette personne est toujours en prison, à Paris. Et pendant toute cette enquête, comme il a été apparu et diffusé, publié dans la presse, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont montré les services secrets turcs en tant que commanditaires de ces trois assassinats. Mais à ce jour, aucune déclaration de la justice française, aucune déclaration du ministère de la Justice, aucune déclaration du ministère de l'Intérieur sur ce qui s'est passé le 9 janvier 2013. L'enquête veut être clôturée actuellement par la juge de cette affaire, qui l'a déclarée le 18 mai dernier. Donc probablement, les procès commenceront dans les prochains mois et cette personne sera jugée. Mais est-ce que c'est cette personne qui va être condamnée ou est-ce que c'est un État qui va être condamné? Ça reste à être répondu. Car ce n'est pas seulement la Turquie qui a commandité ce crime. Pour nous, le peuple kurde, c'est un complot international contre le mouvement des femmes kurdes, le mouvement des Kurdes en général, contre le peuple kurde, parce que c'est arrivé juste au même moment où les pourparlers ont recommencé en Turquie, avec Erdogan, avec les services secrets turcs du gouvernement et le leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan. C'est arrivé 2 mois après, juste après. Donc c'était bien visé, c'était bien contenu. Voilà, donc aujourd'hui, on attend ce qui va se passer, on attend que... On va voir si le procès continue, si le procès commence, pardon. Voilà.